malgré, pour ceux qui avaient cours, l'absence de cours, parce que vous n'aviez pas cours. Donc, je vous présente, pour ceux qui auraient besoin qu'on le fasse, Jean-Yves Mollier, qui est prof à l'université de Saint-Quentin, Versailles-Saint-Quentin. Alors, qui connaît bien l'ENSIB, donc il vient de me dire qu'il avait été membre du conseil d'administration, mais aussi pour y être intervenu plusieurs fois, pour nous avoir présenté l'an dernier votre ouvrage consacré à Pierre Larousse. Par ailleurs, nous connaissons bien, vos travaux concernant l'histoire de l'édition. Alors, on peut citer en ordre antéchronologique, Édition, Presse et Pouvoir en France, paru en 2008. L'argent et les lettres, paru de façon bien plus ancienne, en 1988, et qui reste quand même une espèce d'ouvrage de référence sur l'histoire du capitalisme d'édition. Où va le livre, que vous avez co-dirigé, et qui reste là aussi un ouvrage de référence. Il y a un certain nombre de gens qui ont publié avec vous dans cet ouvrage, qui sont sur lesquels on s'appuie toujours. Et puis, vous avez publié une colossale bibliographie de l'histoire de l'édition de 95 pages que j'avais tirée et qui reste une espèce d'instrument de chevet pour tout ce qui concerne en particulier donc l'histoire de l'édition. Une sorte de bible, si je peux dire. Et vous allez publier en mai prochain un ouvrage aux presses universitaires de Rennes, je le dis parce que c'est un crève-cœur, et qui s'appelait, au moment où vous me l'aviez présenté, Histoire, Édition, Nation, quelque chose comme ça. Hein, voilà. Donc aujourd'hui, on n'est pas là pour cet ouvrage-là, qui va paraître donc à la concurrence, mais pour l'ouvrage qui s'appelle La mise au pas des écrivains, l'impossible mission de l'abbé Bethléem au XXe siècle. Alors, l'abbé Bethléem, c'est une espèce de fonds commun des bibliothèques. On a l'impression un peu comme une vieille tante d'Alexandre Vialat d'avoir toujours entendu parler de l'abbé Bethléem, mais qu'au fond c'était une espèce d'homme inoffensif et qui sans doute battait beaucoup de goupillons pour pas grand chose. Or c'est ce vieil oncle un peu lointain, il n'est pas si inoffensif que ça, et l'intérêt je trouve de lire et de vous faire intervenir aujourd'hui à la lecture de cet ouvrage, c'est que précisément, au fond, d'une certaine façon, tout ce que nous avons pu vivre depuis le début du mois de janvier est écrit là. Enfin, c'est pas divinatoire, hein. On n'a pas invité Nostradamus, bien entendu, mais l'épaisseur historique de votre travail est là. Alors, je peux citer un certain nombre de passages, et ça je ne le ferai pas, parce que je vous laisse le soin de parler de l'abbé Bethléem, mais par exemple, parce que ce sont des débats qui traversent la France aujourd'hui, dressons tous ensemble face au principe du laïcisme qui émiette et épuise la France le faisceau souple, ferme, imbrisable des forces intellectuelles du capitalisme français, clamait le texte inaugural. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur un autre type de religion, c'était déjà ce qu'on entendait dans les années 30. Mais je voudrais juste conclure mon introduction en citant votre introduction, qui dit la chose suivante. Alors, page 23. Comme les caricatures de Mahomet publiées dans la presse danoise, n'oublions pas que cet ouvrage a été écrit en 2013, j'imagine, publié en 2014. Comme les caricatures de Mahomet publiées dans la presse danoise puis française ont déclenché à plusieurs reprises ces dernières années des campagnes d'hostilité, doublées parfois d'appels au meurtre, que tous les intégrismes semblent vouloir se liguer pour interdire aux créateurs la liberté qu'ils revendiquent depuis plus de deux siècles, il est sans doute utile, en revenant aux sources de la censure moderne en Occident, de comprendre pourquoi cette forme d'exclusion sociale ou de mise au ban de la communauté, officiellement apparue à Rome en 443 avant Jésus-Christ, semble encore avoir de beaux jours devant elle. Donc, après cette introduction magistrale et qui se conclut sur un épilogue aussi magistral, je vous laisse la parole, et puis j'ai des tas de petites notes dans tous les sens.
Merci, cher Thierry Armakoff. Merci de me donner l'occasion de revenir à l'ENSIB, où effectivement j'ai toujours plaisir à dialoguer avec les conservateurs en formation. D'une certaine manière, l'actualité nous a rejoints très tragiquement. Et effectivement, les recherches que j'ai entreprises sur le Bethléem depuis plus de 25 ans, parce qu'au fond, ce livre fait partie de ces dossiers que l'on a sous le coude, comme on dit, pendant des années, auxquels on ne veut jamais mettre la dernière main parce qu'on se dit qu'il manque toujours un élément et qu'on finit à un moment, peut-être poussé par une force qui est là, une force sociale, j'entends, qui vous incite à penser qu'il est temps de le publier. Alors même si l'ouvrage n'est pas complètement terminé, on le publie pour à la fois apporter le résultat d'une recherche et en même temps lancer évidemment un cri d'alarme. Mon cri d'alarme, il est simple au fond. En effet, nous vivons une époque tragique, une époque où, eh bien, tout simplement, si on regarde l'actualité, Kamel Daoud, qui a été un finaliste du dernier prix Goncourt, eh bien, un dirigeant salafiste algérien a demandé au gouvernement de l'Algérie de l'exécuter pour apostasie. Et si vous savez que 32 pays reconnus à l'ONU aujourd'hui interdisent, 32 pays interdisent le blasphème sous peine de prison et 20 États reconnus à l'ONU au mépris de la Déclaration universelle des droits de l'homme punissent par la peine de mort ce qu'ils appellent l'apostasie, c'est-à-dire le droit imprescriptible pour un être humain, homme ou femme, de demeurer dans sa religion ou d'en changer, eh bien, vous vous rendez compte qu'effectivement, nous vivons une époque tragique, une époque marquée par, au fond, on pourrait dire, l'éclipse des Lumières si on est optimiste, ou la fin des Lumières si on est pessimiste. Alors pourquoi revenir à l'abbé Bethléem? Parce qu'on pourrait dire que, d'une certaine manière, l'Église catholique, elle, a battu sa coulpe et, au fond, a traversé cette époque, mais est entrée, avec le pape François, dans une époque bénie où, désormais, il n'y aura plus aucune censure. C'est peut-être aller vite en besogne. De la même manière, on pourrait dire que, pour les religions réformées, l'époque des sorcières de Salem s'éloigne de nous. Chaque fois que je vais à Rome, et notamment à l'école française, je m'arrête toujours un petit peu devant la statue de Giordano Bruno pour lui demander pardon quand même de ce que l'Église lui a fait, c'est-à-dire de le faire brûler. Quand je vais à Genève, je n'oublie pas que là aussi des bûchers ont été édifiés de la même manière que près de la Mutualité, place Maubert, à Paris. Au fond, toutes les religions européennes ont connu effectivement cela. Alors l'abbé Bethléem, pourquoi lui ? Effectivement, pour qui travaille sur le monde des bibliothèques, sur le monde du livre, sur le monde de la lecture, c'est un nom que l'on rencontre un peu partout. Ce n'est pas un inconnu à proprement parler, même si sa biographie restait à faire. Je n'ai d'ailleurs pas eu la prétention d'écrire la biographie de l'abbé Bethléem. Je donne tous les éléments qui permettent de nourrir le dossier, mais ça n'est pas à proprement parler une biographie. C'est une étude qui prend le prétexte de l'abbé Bethléem pour essayer de comprendre comment une forme de censure a pu, en quelque sorte, se répandre en Occident et durer à peu près 2 siècles. Je pars de la condamnation de l'encyclopédie, donc autour Voltaire, l'encyclopédie, 1751-1759, on pourrait dire de cette décennie où l'Église catholique se raidit contre ses ennemis, semble comprendre que les Lumières la menacent et décide effectivement de s'attaquer à elle. Et je vais jusqu'aux années 1968 ou un petit peu après, considérant peut-être d'ailleurs que l'apparition d'Harakiri en 1960 marquait déjà au fond la fin d'un cycle. Le fait même que la femme du général de Gaulle ait pu s'indigner en s'apercevant que ses propres neveux à l'Élysée feuilletaient Harakiri à 2 pas du bureau de son mari, ce qui avait provoqué la première ou la deuxième interdiction de 1961-66, montrait bien qu'au fond, on avait changé d'époque et qu'une époque était terminée. L'abbé Bethléem, vous le savez, il était connu essentiellement pour avoir publié en 1904 un livre qui allait faire le tour de la chrétienté et devenir un best-seller, tiré d'abord à 1000 exemplaires, puis réédité 10 fois de suite, les 11 éditions, si on va jusqu'à la dernière en 1904 à 1932, cumulaient 140 000 exemplaires. Pour un livre qui n'était pas destiné au grand public, mais un livre qui était destiné aux éducateurs, aux bibliothécaires, aux libraires, aux directeurs d'œuvres, aux directeurs de collèges, de lycées, donc à des médiateurs. 140 000 exemplaires pour des médiateurs, c'est probablement l'équivalent d'un million ou d'un million 500 000 exemplaires qui auraient été destinés au public. Le succès de ce livre au titre étrange, Romans à lire et romans à proscrire, succès qui allait faire, j'ai apporté uniquement l'avant-dernière édition, que le livre allait grossir. Au départ, il faisait 200 pages, et puis il en faisait 600 dans la dernière édition. Le succès allait amener l'abbé Bethléem non seulement à être soutenu par sa hiérarchie, par l'épiscopat français, par le Vatican, trois papes successifs de Pie XII à Pie XI vont témoigner de leur soutien et de leurs encouragements, mais l'abbé Bethléem va publier deux revues importantes, des revues qui jusqu'à maintenant ont surtout été étudiées dans le cadre des revues de bibliographie. Je pense à l'excellent travail d'Anne-Marie Chartier et de Jean Hébrard, Discours sur la lecture, qui effectivement traite de la revue de lecture, c'est le nom de la deuxième revue publiée par l'abbé Bethléem, mais qui le fait sous l'angle des revues de bibliographie. Or, je vais essayer de le montrer, elle n'était pas une revue de bibliographie. C'était un magazine littéraire que j'aurais tendance à rapprocher plutôt de ce qu'est Télérama aujourd'hui, mais je n'oublie pas que Télérama n'est plus un organe, n'est plus un périodique confessionnel, mais disons Télérama dans sa première version des années 60. C'est-à-dire une sorte de magazine dans lequel, bien sûr, il y a des comptes rendus de livres, mais dans lequel on va trouver des comptes rendus concernant le théâtre, concernant la radio, concernant le cinéma. C'est cela vers quoi avait tendu l'abbé Bethléem. Sa première revue s'appelait sa première revue était consacrée uniquement aux romans, mais très vite il en avait roman revue, c'était le titre qui n'était pas très bon d'ailleurs. Il l'avait changé après la Première Guerre mondiale pour utiliser la revue de lecture. Quand on regarde cette revue, et je vais citer quelques exemples. L'abbé Bethléem se voulait le surveillant en chef des lectures des Français. Il proposait de se livrer à la police des rues et à l'épuration des rues. Il avait entamé une œuvre de police littéraire. Il se voulait la boussole, la vigie, le phare de tous ceux qui en avaient besoin. Il proposait également de mettre en place un office d'épuration et de surveillance de la littérature et du théâtre contemporain, et il allait jusqu'à l'idée de désinfecter les cités. On n'est pas très loin, quand on le montre dans ses actes ou dans ses œuvres, comme vous voulez, en train de déchirer à la devanture des kiosques des magazines considérés comme attentatoires à la morale ou aux bonnes mœurs, on n'est pas très éloigné de ce qui s'est passé l'année dernière à Tombouctou, lorsque, au nom d'une vision très particulière de l'islam, eh bien, des hommes ont décidé de détruire des bibliothèques et de brûler ou de déchirer des manuscrits. Certes, l'abbé Bethléem n'est pas allé aussi loin, mais dans les prescriptions qu'il donnait à ceux qui le lisaient, eh bien, on n'en était pas loin. Alors, je vais maintenant vous le présenter en quelques mots. Qui était l'abbé Louis-Henri Bethléem? Il est né en 1869 et il est mort en 1940. Il est né dans la région de Lille, dans la région d'Hasbrouck, pour être plus précis, à Steinwerk, comme on dit dans cette région. Il est né en 1869 dans une famille de paysans pauvres, dans une famille de paysans catholiques à la fois véritablement solide. Ils étaient trois enfants, lui comme son frère ont choisi le grand séminaire et sont devenus prêtres, seule la sœur, la dernière née, s'est mariée et a eu des enfants. Le nom de Bethléem paraissait un peu insolite, pour ne pas dire incongru dans cette région du Nord. En réalité, il s'agit bien d'une famille flamande qui s'appelait Bethléem, mais qui, en fonction des graphies un peu fantaisistes, quand on remonte sur cinq ou six générations, devient Bethléem sans accent, et c'est, semble-t-il, lui-même, lorsqu'il était professeur dans un collège, après avoir été ordonné prêtre, en 1894, il avait été ordonné prêtre, et puis devenu... c'est avant d'être ordonné prêtre que lui-même, c'est au moment où il est rentré au grand séminaire, qu'il semble avoir ajouté l'accent sur le E pour transformer son nom devenu Bethléem en Bethléem. Sans doute y a-t-il vu un signe du destin, et d'ailleurs, il lui arrivait de comparer sa revue à la grotte de Bethléem. Donc, jusqu'ici, c'est une formation, au fond, très classique. Un fils de paysan pauvre des Flandres, à la foi catholique extrêmement solide. Un paysan pauvre, un fils de paysan pauvre, qui n'a pu faire des études que grâce à la générosité de familles catholiques. C'était le cas, c'était extrêmement fréquent. Donc, c'est d'abord le curé de sa paroisse, de la petite chapelle de Steinwerck, qui lui a appris le latin. On n'entrait pas, on ne pouvait pas devenir prêtre sans connaître parfaitement le latin. Et on verra que l'homme a des qualités indéniables. C'est un excellent latiniste. De la même manière, il connaît parfaitement la littérature française. D'ailleurs, il a fait de très bonnes études. Donc, apprentissage d'abord avec le curé de la paroisse, puis ensuite envoie à la petite école religieuse d'Ether, la ville qui est à une dizaine de kilomètres de Steinwerck, avant d'entrer au petit séminaire de Cambrai, puis au grand séminaire de Cambrai. Pourquoi Cambrai et non pas Lille ? Cambrai est à 100 km alors que Lille est à 25 km, pour une raison très simple, il n'y a pas d'évêché à Lille avant 1913. Donc, il n'y a pas de grand séminaire à Lille puisqu'il n'y a pas d'évêché. C'est donc à Cambrai qu'il a fait ses études, à la fois au petit puis au grand séminaire. Il est ordonné prêtre en juin 1894. Il a suivi un enseignement très rigoureux. Il n'y avait quasiment pas de bibliothèque dans le grand séminaire de Cambrai en 1894. C'est après sa sortie que les lazaristes qui dirigeaient cet établissement ont compris que dans la formation des prêtres, il fallait ajouter une bibliothèque pour leur permettre de répondre aux questions posées par les catholiques. C'est donc un peu contraint et forcé qu'ils ont fait entrer des livres. Bien sûr, il y avait des livres, il y avait les Pères de l'Église, il y avait la Bible, mais il n'y avait pas de livres laïques, dirait-on, ou de livres profanes. C'est donc dans un séminaire très rigoriste que l'abbé Bethléem a été formé, un grand séminaire dans lequel l'enseignement de l'antimaçonnisme était devenu obligatoire. Et on entre là de plein pied dans cette église catholique de France qui va être libérée paradoxalement en 1905 des obligations qu'elle avait contractées envers l'État. On a oublié aujourd'hui parce que, au fond, la leçon qui ressort de la plupart des études du côté catholique qui ont été faites de la séparation, c'est que l'église catholique l'a vécu comme un drame. C'est pas faux. Et il y a eu d'ailleurs des drames physiques au moment des inventaires, en 1906. Mais, pour moi, ça a été au contraire une véritable chance. Pourquoi ? Parce que les prêtres qui étaient fonctionnaires, salariés de l'État, se sont trouvés libérés en 1905 de l'obligation, en quelque sorte, de tenir compte de leur statut de fonctionnaire lorsqu'ils prêchaient et lorsqu'ils parlaient de choses qui concernaient l'État. L'abbé Bethléem a donc reçu un enseignement dans lequel l'Église catholique s'en prenait à son premier ennemi. À son premier ennemi, le protestantisme, à son second ennemi, la franc-maçonnerie, qui avait enclenché les Lumières, la Révolution française, avant de mettre en place, au début des années 1890, un combat contre le quatrième État confédéré. Je cite là la théorisation par Charles Maurras. Je répète dans l'ordre, les protestants, les francs-maçons, les juifs et les métèques, les étrangers. Les juifs, en effet, c'est à partir de la publication de la France juive par Drumont en 1886 et du début du scandale de Panama en 1893 qu'un véritable antisémitisme vient à l'intérieur de la culture catholique se greffer sur un anti-judaïsme qui, lui, remonte évidemment à l'époque du Christ et donc qui a 2000 ans derrière lui, mais qui vient transformer profondément l'anti-judaïsme pour le renouveler. Je n'en veux pour preuve que l'éditorial du 24 août 1890 de La Croix, titrant « Nous sommes le journal le plus antisémite de France, celui qui porte le Christ en horreur aux Juifs ». Pourquoi celui qui porte le Christ ? Parce qu'à la une, il y a effectivement, à gauche, le Christ en croix, et qu'en quelque sorte, eh bien, cette représentation du Christ fait horreur aux Juifs, du moins selon les pères assomptionnistes qui rédigent La Croix. Je vous renvoie pour mémoire au très bel article publié en 1998 dans La Croix, où 100 ans après l'affaire Dreyfus, La Croix battait sa coulpe et disait « Oui, nous avons été un journal antisémite il y a 100 ans et nous devons le reconnaître ». Donc, on peut considérer que désormais, cela fait partie de l'histoire. Avant 1998, on préférait encore parler plutôt d'anti-judaïsme avant le centenaire de l'affaire Dreyfus. Non, il y avait bien un antisémitisme. Alors vous retrouvez là, au fond, toute la nourriture spirituelle qui a été celle de l'abbé Bethléem. Résumons-nous. À la fois de bonnes et solides études en littérature française, en latin, mais également, évidemment, les bases d'un refus du monde moderne. Et on est là, au fond, tout à fait en osmose avec ce que sera le pontificat de Pie X, c'est-à-dire le refus du monde moderne. Le retour à une sorte de cité du Moyen-Âge avant la Révolution française, une cité dans laquelle la famille, les provinces, les corporations formaient l'ossature de la nation. C'est ce monde que regrettera toute sa vie l'abbé Bethléem. Pour bien le comprendre, il faut donc effectivement être intimement persuadé que dans ses écrits, l'abbé Bethléem va passer son temps à se battre, je dirais un peu moins contre les protestants. Il a quelques envolées contre les religions réformées. Il n'aime pas l'armée du salut. Il engagera au milieu des années 30 un combat pour dire aux catholiques ne donnez pas d'argent à la quête dans la rue pour l'armée du salut. Mais au fond, en dehors de ces quelques attaques, il ne parle quasiment plus des protestants. En revanche, la lutte contre les francs-maçons fait partie de ses objectifs quotidiens. Dans la revue de lecture des années 30, il ira jusqu'à publier la liste nominative des francs-maçons écrivains, des francs-maçons peintres, des francs-maçons hommes de théâtre, des francs-maçons médecins, pharmaciens. Vous comprenez peut-être pourquoi ce qui nous paraît tout à fait incongru quand on se souvient qu'en 1940, le nouveau régime de Vichy va interdire la franc-maçonnerie, vu de 2015, on se dit mais dans quel monde vivait-il ? Ce n'est pas aussi simple. Le combat contre la maçonnerie faisait partie des objectifs de la Fédération nationale catholique, dont je reparlerai, et faisait partie des objectifs d'un certain nombre de prélats qui, périodiquement, régulièrement, s'en prenaient effectivement à la maçonnerie. Donc l'abbé Bethléem a été nourri de cette nourriture spirituelle. Ordonné prêtre en 1894, il n'avait pas vocation à s'occuper des livres. Mais 1894-1895, c'est le début des congrès eucharistiques en France. C'est le moment où un certain nombre de prêtres, avec l'abbé Lemire et bien d'autres, s'interrogent sur le sens de leur apostolat. Quelles questions vont-ils pouvoir apporter aux catholiques qui les fréquentent, qui viennent se confesser ou qui viennent tout simplement leur demander conseil ? La culture de masse est devenue une réalité en France. La lecture des journaux concerne des millions et des millions de Français. Songez qu'en 1900, 40 millions de Français achètent tous les jours 9 500 000 quotidiens. Un quotidien pour 4 Français. Chacun étant lu par 3 à 3,5 personnes, on a une lecture des quotidiens de masse, 30 à 35 sur les 40 millions de Français, lisent le journal tous les jours. À partir de 1905, l'éditeur Artem Fayard publie ses grandes collections bon marché, le livre populaire, ou les collections illustrées, la moderne bibliothèque par exemple, ou encore Flammarion qui va l'imiter, ou Calman Levy avec la nouvelle collection illustrée, sont des collections tirées au minimum à 50 000 exemplaires, en général à 80 000, 100 000 exemplaires. On est en plein dans la culture de masse qui ne doit rien, n'en déplaise à Edgar Morin, qui ne doit rien ni à la télévision, ni au cinéma, ni à l'après-Deuxième Guerre mondiale. Là, les sociologues, sans doute parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment l'histoire, se sont trompés. La culture de masse est née avant le cinéma, elle est née avant la radio, elle est née avant la télévision. Mais naturellement, elle s'est développée considérablement avec ces nouveaux médias. Alors, en pleine époque de culture de masse, un certain nombre de prêtres s'interrogent sur ce que doit être la bibliothèque d'un Français, d'un père de famille, d'abord d'un prêtre, mais ensuite d'un père de famille. On s'interroge sur les lectures. On voit apparaître, 1904-1905, la bande dessinée. Elle n'est pas née à ce moment-là, mais elle se développe considérablement. Côté laïque, avec les pieds nickelés, avec les patents des frères Hoffenstadt, une des bêtes noires de Bethléem, qui ne cesse de dire que ce sont des juifs allemands qui sont en train de pervertir la jeunesse. En réalité, ce sont des Français dont les parents étaient allemands et ont été naturalisés, donc eux sont authentiquement français. Ils sont juifs mais déconfessionnalisés. Et la Bethléem, en 1914, le jour même de la déclaration de guerre, enverra à la préfecture de police de Paris une lettre de dénonciation des frères Hoffenstadt en disant « ce sont de mauvais Français, en réalité c'est une sorte de cinquième colonne, c'est moi qui ajoute l'expression, il faut absolument les arrêter parce qu'ils ont perverti la jeunesse ». Au nom d'une conception sans doute étrange de la confession, l'abbé Bethléem n'hésite pas, le cas échéant, à pratiquer la délation, comme 20 ans plus tard, lorsqu'il publiera le nom des francs-maçons. Alors, au moment où il est ordonné prêtre, voilà les questions que se posent bon nombre de prêtres qui se réunissent régulièrement en congrès eucharistique. L'abbé Bethléem a été nommé par son archevêque dans un certain nombre de cures, ou en milieu ouvrier, en milieu plus bourgeois. C'est en 1903, donc presque 10 ans après avoir été ordonné prêtre, qu'il est rappelé à la cathédrale de Cambrai, et c'est là que l'archevêque va lui demander de s'occuper de l'œuvre des lectures, l'œuvre des bons livres. Or, ça nous renvoie, moi, je fais référence aux travaux de Noé Richter, qui a republié le manuel des bons livres des abbés Barreau et Taillefer il y a maintenant une quinzaine d'années. Ce manuel des bons livres, publié en 1834, renvoie à une œuvre reconnue par l'Église en 1820, qui avait débuté en 1812. Vous voyez que de Bethléem, on saute un siècle, on revient un siècle en arrière. L'œuvre des bons livres, elle est née à la fin de l'Empire pour essayer d'élever un barrage contre l'œuvre de la Révolution. Faire en sorte que les chrétiens puissent trouver des livres qui ne risquent pas, au fond, de les entraîner vers le mal. Il faut aller plus loin. L'œuvre des bons livres ne se contente pas de dire aux chrétiens qu'ils sont en train de perdre le temps lorsqu'ils lisent des romans et qu'ils se détournent de leur vocation de chrétien qui est, comme on le pensait au Moyen-Âge, de se préparer à une bonne mort. Non. L'abbé Barreau, l'abbé Taillefer font partie de ces prêtres qui ont compris que le cabinet de lecture qui s'est développé dans le dernier tiers du XVIIIe siècle et considérablement au début du XIXe siècle est devenu une réalité incontournable, que les hommes, les femmes veulent désormais lire pas simplement de la littérature sacrée mais de la littérature profane, et ils vont proposer ce qu'on appellera au XIXe siècle la littérature d'édification, c'est-à-dire des romans avec une intrigue, mais des romans évidemment qui ne s'écartent pas des règles de la morale. Donc c'est une fraction de l'Église catholique plus moderniste en ce sens que la fraction qui interdisait ou censurait l'ensemble des lectures en dehors des lectures religieuses. il y a là une acceptation partielle de la modernité, mais avec évidemment une volonté de demeurer dans des cadres préétablis, c'est-à-dire d'ajouter à l'orthodoxie des lectures ce qu'on appellera l'orthopraxie, ou à l'orthodoxie des livres reconnus utiles, l'orthopraxie, c'est-à-dire donc les bonnes lectures. L'œuvre des bons livres, née en 1812, reconnue en 1820, devenue archiconfrérie, s'était répandue non seulement dans à peu près un diocèse sur deux en France, et donc était remontée du sud de Bordeaux vers le nord, et notamment l'archevêché de Cambrai, mais elle avait essaimé en Belgique, en Espagne, en Italie, aux États-Unis et au Québec, où, jusqu'à la Révolution tranquille, elle est devenue une réalité extrêmement importante. C'est donc en 1903, pour s'occuper de l'œuvre des bons livres, que l'abbé Bethléem est rappelé à la cathédrale de Cambrai. Et c'est là où l'idée lui vient, en travaillant avec des directeurs de collèges, des directeurs d'œuvres, de bibliothèques, de proposer aux prêtres qui se posent la question lors des congrès eucharistiques une sorte de guide qui permettrait de dépasser un guide qui lui paraît suranné, à savoir l'index Librorum Prohibitorum. Cet index existe depuis avant 1600, mais pour simplifier, depuis 1600, il compte environ 5000 titres interdits. C'est vrai qu'au milieu du XIXe siècle, il s'est beaucoup intéressé à la littérature, depuis Voltaire, on va dire pour simplifier, depuis 1751, depuis la condamnation des premiers contes de Voltaire, mais massivement, c'est surtout la théologie qui a été condamnée et qui a nourri l'index Librorum Prohibitorum. L'abbé Bethléem ne va pas s'opposer à l'index, il en fera sa première catégorie, mais il sait bien que cet index est insuffisant et qu'au fond, il ne sert à rien pour la masse des catholiques. Il va donc passer en revue le reste de la littérature et ouvrir 5 autres rubriques. Il y aura dans sa grille de classification 6 rubriques, 3 romans à proscrire et 3 romans à lire, avec à chaque fois un certain nombre de nuances. C'est-à-dire, au fond, l'idée, parce que l'abbé Bethléem, je vais le redire, c'est un pragmatique. C'est pas tellement un dogmatique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas vraiment un idéologue, c'est davantage un pragmatique. De la même manière que l'abbé Barrault, avec son manuel de l'œuvre des bons livres, disait aux bibliothécaires, s'il y a dans un livre 3 pages mauvaises, vous les déchirez, mais vous laissez le livre et vous le mettez dans la bibliothèque et vous le prêtez. C'est ça le pragmatisme. Ou bien vous mettez un carton pour cacher effectivement les passages à caviarder. Eh bien, de la même manière, l'abbé Bethléem, on le voit quand il parle par exemple de George Sand, elle est à l'index. Comment faire? Toute l'œuvre de George Sand est à l'index, on ne peut pas autoriser. Eh bien, il la chasse par la porte, mais il la fait rentrer par la fenêtre, en disant, mais on peut quand même lire les romans de la pastorale. La petite Fadette, La Mare au Diable, François Le Champy. Victor Hugo est à l'index, alors on le chasse par la porte, mais on peut quand même lire les morceaux choisis. Et même chose pour Lamartine. Et quand on regarde attentivement, on est parfois étonné. Stevenson, L'île au trésor, pas de problème. Il va même jusqu'à conseiller la lecture de Jules Vallès, enfin, des 2 premiers romans de la trilogie, ce qui n'est pas si mal. L'insurgé, certes, est censuré, mais L'enfant et Le bachelier sont autorisés. C'est un pragmatique, il bricole. Où s'est-il convaincu de la nécessité de ce pragmatisme? Probablement, à mon sens, dans la courte période, 1 an et demi à 2 ans, où il a été professeur. Parce qu'au moment où il est rentré au grand séminaire, eh bien, la nouvelle loi militaire avec le général Boulanger, vous savez qu'on résume avec l'expression les curés sac au dos, faisait que désormais, les séminaristes allaient devoir faire le service militaire. Alors, pour remplacer un séminariste parti au service militaire, le tout jeune séminariste qu'il était a dû enseigner pendant 2 ans dans un collège religieux, l'équivalent d'une classe de 3e d'aujourd'hui, et donc il a enseigné à la fois le latin et la littérature française. Et il s'est rendu compte qu'on était bien obligé de parler de George Sand, de Lamartine, de Théophile Gautier, de Victor Hugo, de Balzac, d'Émile Zola, de tous ces auteurs qui étaient d'une certaine manière interdit aux catholiques à cause de l'index Librorum Prohibitorum. Il s'est donc convaincu qu'il fallait effectivement proposer un nouveau guide de lecture. Il en avait existé au XIXe siècle, j'ai cité l'œuvre des bons livres. La bibliographie catholique était apparue en 1841 et pendant 50 ans, elle avait permis à des écrivains catholiques de lire une grosse partie de la production du pays, voire de la production étrangère via les traductions, pour proposer aux catholiques des comptes rendus de lecture. La bibliographie catholique de 1841 à 1886 a été un premier grand guide des lectures. Elle avait disparu en 1886. C'est la revue des jésuites, la revue Études, qui avait alors mis en première partie une bibliographie, mais très vite, les jésuites s'étaient rendus compte qu'ils avaient d'autres choses à faire et surtout que cela prenait une trop grosse partie de la revue. Donc, il n'y avait plus, au début des années 1890, de guide disponible des bonnes lectures. Eh bien, avec romans à lire et romans à proscrire, l'abbé Bethléem propose effectivement aux catholiques un outil pour s'adapter à la réalité. Le succès dépassant ses espérances, le livre va être réédité, 1904 première édition, 1905, 1906, 1908, 1911, 1914. Dès 1908, il est autorisé par son archevêque à publier une première revue qui paraît tous les 15 jours, roman revue, et qui va s'épaissir numéro après numéro, et une revue qui est en contradiction avec son titre, car partie d'un panorama de la lecture romanesque, parce que c'est le genre évidemment le plus attrayant pour les lecteurs autour de 1900, elle s'intéresse au théâtre, elle s'intéresse aux journaux, au quotidien, elle s'intéresse bientôt au cinéma, elle s'intéresse à toute la vie culturelle. Ce qui fait qu'après 1919, à partir de 1919 plutôt, elle reparaîtra d'abord sous le double titre roman-revue, revue des lectures, puis à partir de 1926, le deuxième titre se substituera au premier et ce sera la revue des lectures. L'abbé Bethléem a obtenu le soutien immédiat de l'épiscopat français. Les cardinaux, les archevêques, les évêques les plus importants, jusqu'en 1940, soutiendront son œuvre. Pie X le recevra en audience privée en 1912 à Rome et qualifiera l'œuvre des lectures d'opus mirificum. Et à la une de la revue des lectures, eh bien, l'abbé Bethléem se félicitera de cet effectivement encouragement, de cet éloge, et il publiera le petit mot écrit manuscrit par Pie X lors de cette audience. Après la Première Guerre mondiale, interruption pendant la Première Guerre mondiale, mais l'abbé Bethléem n'est pas resté à Lille où sa revue s'était transposée, s'était transférée en 1911, deux ans avant que Lille ne devienne évêché. En 1914, il quitte la ville avant que les Allemands ne l'occupent et il est à Paris, où il va s'occuper d'ailleurs de l'œuvre des réfugiés du Nord. Puis, en 1917, on le voit apparaître au premier congrès du Livre. C'est le moment où la France est en train de définir ses buts de guerre pour l'après-guerre et où laïcs et religieux considèrent qu'avant la Première Guerre mondiale, les Allemands avaient commencé à s'emparer de parts de marché pour publier des livres en français. Livres et revues pouvaient être imprimés en français en Allemagne et se déverser sur les marchés français. On prépare l'après-guerre. On accuse évidemment les Allemands d'avoir également essayé de pervertir la jeunesse, et comme les Hofstadt avaient toute cette presse avec effectivement les pieds nickelés, les patents, l'intrépide, eh bien on montre qu'il y avait une véritable entreprise politique qui était destinée, je crois qu'on peut filer la métaphore, une sorte de cinquième colonne avant la lettre, qui était là effectivement pour préparer les esprits. À partir de 1919, la BBPM s'installe à Paris et il va élargir considérablement le sens de son combat. À partir de 1924, il faut faire intervenir cette institution dont j'ai parlé deux fois déjà, la Fédération nationale catholique. Qu'est-ce que c'est que cette Fédération nationale catholique ? c'est le plus grand parti politique, si on veut comparer, que la France ait jamais connu. 2 200 000 adhérents. Aucune association française, aucun syndicat, aucun parti politique n'a jamais dépassé 800 000 ou 900 000 adhérents. Donc, une association énorme. 2 200 000 adhérents, évidemment la Fédération nationale catholique n'est pas un parti politique, c'est une association née en 1924 pour empêcher le cartel des gauches revenu au pouvoir en 1924 de réaliser son programme laïque. Fermeture de l'ambassade de France au Vatican, suppression du concordat en Alsace-Moselle et puis retour à un certain anticléricalisme qui avait disparu à la faveur de la Première Guerre mondiale et à la faveur également de la Chambre Bleu Horizon qui s'est installée en 1919. Cette Fédération nationale catholique, après avoir obtenu en 1926 gain de cause, redéfinit ses buts, ses orientations. Elle a le soutien entier de la papauté et elle va être un instrument aux côtés de l'épiscopat français, aux côtés de l'Assemblée des cardinaux et archevêques de France, pour essayer de faire pénétrer dans un État laïque eh bien, les grandes orientations catholiques. Et c'est là où l'abbé Bethléem va devenir un des grands orateurs de la Fédération nationale catholique, qui engage au milieu, vers 1927-1930, un grand combat pour la défense de la moralité. La revue des lectures, dès 1926-1927, exigeait des pouvoirs publics que l'on applique à la fois la loi municipale de 1884 qui autorise un maire à faire la police dans les kiosques de gare ou les kiosques publics et donc à interdire les revues dites pornographiques, c'est-à-dire n'importe quel magazine un peu léger. L'abbé Bethléem demandait aussi qu'on applique les lois de 1882, 1898 et toutes les lois qui permettaient effectivement d'instruire des procès contre les livres qui, à la fois contre les livres et contre les journaux qui violaient les bonnes mœurs. En décidant en 1927 de payer de sa personne, l'abbé Bethléem va appliquer en quelque sorte ce que j'ai envie d'appeler, en utilisant un anachronisme, du happening avant la lettre, c'est-à-dire une mise en scène de soi dans le but. Quel était le but de l'abbé Bethléem quand il déchirait les magazines? Le but était tout à fait cohérent. Le but, c'était de se faire arrêter en flagrant délit de destruction d'une propriété qui n'était pas la sienne, pour que le policier ayant constaté le délit l'emmène au commissariat, dresse procès-verbal, transmette au procureur de la République qui intente un procès. Et alors, l'abbé Bethléem n'était jamais aussi content que lorsqu'on lui donnait l'occasion de venir au tribunal pour flétrir, stigmatiser les pouvoirs publics, les maires, les préfets de la République, les procureurs qui n'appliquaient pas la législation. Avec beaucoup d'habileté, sans doute très bien conseillé par son entourage, l'abbé Bethléem, au fond, mettait le doigt sur des contradictions de la société française de l'entre-deux-guerres. Il prenait un malin plaisir à dire, par exemple, que le radical Édouard Herriot, maire de Lyon, nous sommes ici dans la banlieue, eh bien, avait lui-même, au nom de la défense des bonnes mœurs, fait interdire l'affichage, l'exposition dans les kiosques d'une vingtaine de journaux légers, Froufrou, Le Gay Paris, etc. Que le maire socialiste de Lille, Roger Salengro, le futur ministre de l'Intérieur du Front Populaire qui mourra, vous le savez, tragiquement, avait lui-même fait interdire les mêmes magazines. Bien plus, s'amusait à dire l'abbé Bethléem, dans un certain nombre de communes, de droite, du centre, centre-droit, centre-gauche ou de gauche, les maires étaient allés encore plus loin, avaient accepté de reprendre la régie des spectacles, c'est-à-dire de ne plus donner les théâtres municipaux à un gestionnaire, mais de les reprendre en main pour contrôler les spectacles dans leur ville. Qu'un certain nombre de maires avaient nommé des commissions de pères de famille pour lire les manuscrits d'une pièce de théâtre, d'un opéra ou d'une opérette avant d'autoriser ou d'interdire la représentation. L'abbé Bethléem, en quelque sorte, montrait du doigt les contradictions en exigeant que les pouvoirs publics reconnaissent que la société française était menacée de l'extérieur. Quels étaient les fléaux qu'il dénonçait ? Il dénonçait un premier fléau. La France se sentait menacée. La France faisait 1 million de bébés avant 1914. Elle n'en faisait plus que 600 000 à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait donc, selon l'abbé Bethléem, mais selon également des hommes de droite et de gauche, un danger effectivement si une propagande nataliste, ou pardon, si une propagande antinataliste, si une propagande pour l'avortement, eh bien, aboutissait à augmenter cette brèche. L'abbé Bethléem montrait également que, eh bien, le cinéma risquait de provoquer dans la jeunesse un engouement pour le vol, voire pour le crime. Que le mauvais livre pouvait également pousser les enfants, les jeunes, eh bien, à commettre toute une série de délits, voire de crimes. Songez dès 1902 à la grande campagne contre les Apaches. Les Apaches, ce n'étaient pas les Indiens de l'Ouest africain, c'était évidemment les voyous des banlieues. Hein, songez au très beau film Casque d'or avec Simone Signoret dans le rôle titre. Donc l'abbé Bethléem, via roman à lire, roman à proscrire, via la revue de lecture, s'en prend à tout ce qui peut pervertir la jeunesse, tout ce qui peut pervertir les adultes. Et de fil en aiguille, il en vient à surveiller les émissions de radio. Il est l'un des premiers à avoir poussé l'épiscopat à créer des associations destinées à écouter les émissions de radio et là encore à essayer de les normaliser. Ce sera le rôle de l'association Radio Famille. Il est l'un des premiers à avoir poussé les catholiques à produire également des magazines s'intéressant spécifiquement au cinéma, parce que très moderne de ce point de vue-là, il avait vu qu'à la fois la radio et le cinéma étaient deux médias extraordinaires qui allaient véritablement modifier les perceptions de ses contemporains. Loin de tourner le dos à la bande dessinée, à la radio ou au cinéma, il les a acceptés en tant que médias extrêmement utiles. Mais en bande dessinée, il déteste évidemment les pieds nickelés, il aime Bécassine comme il aimera Tintin. Pas d'ostracisme contre le 9e art, mais on essaye de le canaliser. C'est toujours l'image qu'on retrouve, bon évidemment vous ne voyez pas ici, le phare qui éclaire dans la nuit, devant le torrent, le fleuve de livres, on essaye effectivement de mettre des digues, de mettre un barrage. Même chose pour la radio, même chose pour le cinéma, il va se battre contre les mauvais films. Alors, je ne résiste pas au plaisir de citer sa campagne contre Le Rosier de Madame Husson, vous savez, ce petit roman de Guy de Maupassant qui malicieusement a mis au centre du Rosier de Madame Husson une petite ville de Normandie dans laquelle Madame Husson chaque année prépare le prix de la rosière, c'est-à-dire de la jeune fille la plus vertueuse. Cette année-là, comme il n'y a pas de jeune fille vertueuse, on a trouvé un benêt qui semble très vertueux et on lui a alors remis le prix qui est devenu le prix du rosier. Et qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent obtenu ? Bah, il s'est précipité à la ville la plus proche de la sienne pour aller s'encanailler et devenir enfin un homme, ce qu'il n'était pas avant. Bon, il y a là effectivement la volonté satirique chez Maupassant. Vous imaginez, si vous ne l'avez pas vu, avec Fernandel dans le rôle du rosier de Madame Husson, c'est un film tout à fait drôle, mais qui a été un objet de scandale. L'abbé Bethléem, la Fédération nationale catholique sont parvenus à faire empêcher la projection dans plus d'une centaine de villes. Quant au roman, si au même moment j'ajoute que Victor Marguerite vient de publier La Garçonne, ou pire, ce très beau roman que pour ma part j'ai offert à ma fille quand elle a eu 14 ans, Ton corps est à toi, parce que je considérais que le corps d'une jeune fille n'appartient ni à son père, ni à son frère, ni à son époux si elle décide de se marier, mais uniquement à elle-même. Ces romans avaient fait scandale et Victor Marguerite avait été radié des registres de la Légion d'honneur pour avoir publié La Garçonne. Donc on était bien dans les années 1925-1935 dans une période effectivement de lutte extrêmement violente pour imposer une certaine morale. Et c'est en ce sens que l'abbé Bethléem, et je m'approche de ma conclusion, nous intéresse aujourd'hui. Il a eu deux grandes victoires, indépendamment de ces victoires partielles, l'interdiction de tel roman ou de tel film ou de tel spectacle dans une ville. Ces deux grandes victoires, la première, il est encore vivant, mais il est déjà très malade, c'est le décret-loi pris par le gouvernement Daladier en juillet 1939, auquel on a donné le nom de Code de la famille. Le Code de la famille de juillet 1939 a en effet fait naître une commission spéciale consultative du livre. Désormais, malgré la grande loi de libération qui avait été votée le 29 juillet 1881 et qui avait permis en gros à toute la littérature, à tous les écrivains, de pouvoir publier entre 1880 et 1940, à de rares exceptions près, eh bien, la commission spéciale consultative du livre, pour vous donner deux chiffres simplement, elle ne sera pas réunie pendant la guerre à cause des circonstances, mais entre 1950 et 1954, elle fera interdire 156 livres en France, et de 1954 à 1958, près de 400. Donc, vous voyez comment cette commission mise sur pied à la demande des associations de défense de la moralité vont avoir, avec le Code de la famille, un véritable moyen pour intervenir. Deuxième aspect, le Code de la famille autorise les associations, pour la première fois dans l'histoire du droit français, à se substituer aux individus et à porter plainte. Si aujourd'hui une association peut porter plainte lors d'une exposition, lors d'un concert, lors de la publication d'un livre, c'est à cause de la loi de 1939. Avant 1939, les juristes ne voulaient, même situés très à droite sur l'échiquier politique, ne voulaient pas qu'on aille vers l'autorisation des associations de se substituer aux individus. C'est un grand changement dans le droit français. Deuxième victoire de la BBTM, elle est posthume. 10 ans après, la loi de protection de la jeunesse du 16 juillet 1949 va faire naître une deuxième commission de contrôle et de surveillance des publications destinées à la jeunesse. Mais si je vous dis que par exemple en 1968, eh bien cette commission censée regarder les publications destinées à la jeunesse a fait interdire Barbarella, vous aurez vite compris que cette commission outrepassait ses droits. Barbarella, dans sa version initiale, était un album de bande dessinée extrêmement cher, destiné à l'évidence uniquement aux adultes. Personne ne pouvait imaginer qu'il s'adressait à un public pour enfants. La commission de contrôle et de surveillance des publications destinées à la jeunesse l'avait pourtant pris et avait exigé et obtenu son interdiction. La loi de protection de la jeunesse de 1949, c'est elle qui va faire que les éditeurs belges vont s'auto-censurer. Et là, j'approche de ma conclusion. En effet, je vais prendre des exemples anodins. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu droit, dans les Dalton, à ce merveilleux coup de revolver de Lucky Luke qui, avec 4 balles tirées en même temps, tue les 4 frères Dalton? Tout simplement parce que l'éditeur Dupuis a considéré que ça ne passerait pas au niveau de la commission, et donc cette planche a été interdite. Il se trouve qu'on la connaît parce que le dessinateur l'a recyclée ultérieurement. Pourquoi est-ce qu'à partir de 1949, le capitaine Haddock, dans les albums de Tintin, s'auto-censure et change ses jurons? Pourquoi tout d'un coup on n'a plus que des jurons maritimes? Pourquoi est-ce qu'il ne boit plus de whisky alors que le capitaine Haddock sans whisky, c'est inimaginable? C'est à cause de cette commission. J'ai pris 2 exemples évidemment tout à fait triviaux, mais la commission s'en est pris à un certain nombre de publications, et je l'ai dit, plus que la censure, elle a interdit à certains moments telle ou telle publication, mais son but c'était pas la censure, c'était l'autocensure. L'abbé Bethléem, pendant tout l'entre-deux-guerres, son but était le même: amener les éditeurs comme plomb à publier une collection de livres osés. Et l'abbé Bethléem dit bravo, merci, car ça ne le choque pas qu'un éditeur puisse avoir des collections exactement comme roman à lire, roman à proscrire, du moment que le lecteur est prévenu, ça ne le choque pas. Et donc, on voit l'abbé Bethléem féliciter un éditeur qui s'est soumis à son diktat. Chez Larousse, dès 1910, un prêtre est entré clandestinement au comité de surveillance de la rédaction des encyclopédies, l'abbé Bertrand, je donne son nom. Pendant plus de 10 ans, ce prêtre a lu tous les articles qui allaient être introduits dans les encyclopédies et il a dit au comité éditorial, en quelque sorte, ah, je donne l'imprimatur et vous pouvez les publier, il n'y aura pas d'ostracisation de la part de l'Église de France, au contraire, si vous ne vous soumettez pas, il y aura risque de guerre. L'abbé Bethléem voulait obtenir, je le répète, l'autocensure des éditeurs, des bibliothécaires. Il avait obtenu, entre 1940 et 1945, une troisième victoire. On a un peu trop souvent dit dans l'histoire des bibliothèques que, au fond, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en dehors des listes auto, les bibliothécaires français avaient été plutôt accommodants et, au fond, avaient officiellement respecté les listes auto, mais avaient continué à donner les livres aux lecteurs en fonction de leurs demandes. C'est totalement faux. J'ai un étudiant qui vient de soutenir un mémoire de master à l'Université de Saint-Étienne qui s'est intéressé au département de la Loire et de la Haute-Loire. Il y a eu, avec romans à lire et romans à proscrire, dans les mains de la commission municipale dès 1940, épuration des bibliothèques de Saint-Étienne, de Roanne et de toutes les grandes villes du département. 1500 livres brûlés à Saint-Étienne, 700 livres brûlés à Roanne. À Lyon, les livres ont été enlevés des bibliothèques, ils n'ont pas été brûlés parce que le conservateur a préféré les sauver, mais en même temps, ces livres n'ont pas été mis à la disposition du public. Quand on regarde les listes, on est très surpris. On a cru qu'en réalité, c'était les livres correspondant aux listes auto, totalement faux. L'immense majorité des livres ne figuraient pas sur les listes auto, n'étaient pas des livres communistes ou juifs, etc., selon l'idéologie nazie, mais étaient tout simplement des romans qui n'avaient pas reçu l'aval de la Bethléem. Cet étudiant continue son enquête en l'élargissant à d'autres départements. Il est bien probable qu'on se rendra compte qu'effectivement, entre 1940 et 1944, pas partout, pas de manière constante, mais ici, là, pendant telle et telle durée, eh bien, avec la revue de lecture, avec romans à lire et romans à proscrire, il y a eu, en quelque sorte, substitution d'une sorte de morale religieuse ou d'inspiration religieuse aux règles de droit français. 1949, dernière victoire de l'abbé Bethléem avec cette loi de protection de la jeunesse. Pour conclure, j'avais eu tendance, en travaillant sur ces questions, à considérer que, à partir des années 60-70, la France avait basculé dans un autre cycle historique et qu'il y avait eu un cycle 1750-1960. Mais qu'avec l'apparition de Marie Curie, de Charlie Hebdo, avec la révolution de 1960, j'entends révolution des mœurs, révolution avec la loi Neuwirth sur la contraception 1967, la loi Veil, Simone Veil 1975, le droit à l'avortement, il y avait eu un avant et un après. Et puis on a vu revenir à la fin des années 1980, on a vu revenir l'intolérance à très grands pas. Souvenez-vous, 1989, l'ayatollah Khomeini prononce ou fulmine, pourrait-on dire, une fatwa contre Salman Rushdie. Et puis ici et là, jusqu'au début des années 2000, on voit tel secteur de l'Église catholique s'en prendre à un film, La dernière résurrection du Christ de Martin Scorsese, ou s'en prendre à une pièce de théâtre. En 2000, à Bordeaux, l'association La Mouette s'en prend à l'exposition Présumé innocent, où on montre les œuvres qui mettent en scène la jeunesse, œuvres d'art souvent violentes, depuis les années 1945 ou 1950. Plus près de nous, il y a eu toute une série d'affaires. J'ai cité tout à l'heure Kamel Daoud, mais 2014, vous vous rappelez bien, Jean-François Copé qui s'en prend à un album pour enfants, Tous à poil, dans lequel, eh bien, les auteurs ont imaginé une famille, pas seulement une famille d'ailleurs, le père, la mère, l'instituteur, le facteur, le médecin, qui effectivement sont tout nus. Il s'agit de dessins très bien représentés et non pas de photographies. C'est évidemment un livre qui n'a posé aucun problème, qui a obtenu toute une série de prix. Mais dans le climat de fantasmagorie politicienne qui voit un affrontement extrêmement dur entre la droite et l'extrême droite, eh bien, la droite, pensant reprendre probablement à l'extrême droite une partie de cet argumentaire, brandit tout sa poil comme si tout d'un coup, les instituteurs et les institutrices de France, comme si les bibliothécaires de France étaient en train de nouveau de pervertir la jeunesse. Bon, Jean-François Copé n'a pas proposé que l'on remplace les chants de pavots par des chants de ciguë et que l'on donne à boire aux bibliothécaires et aux professeurs des écoles la ciguë qu'avait absorbée Socrate, mais on n'en était pas loin pour des raisons tout simplement de basse politique. L'actualité tragique, je reviens à mon introduction, a montré que en Afghanistan, on a détruit des Bouddhas, comme on l'avait fait d'ailleurs dans songer à Polyeucte, tout simplement, comme les premiers chrétiens, les premiers zélotes l'avaient fait pour effacer les traces du paganisme. À Tombouctou, on a brûlé des manuscrits. Et puis, aujourd'hui, eh bien, on tente, au nom de la prétendue lutte contre le blasphème, on prétend interdire aux agnostiques et aux athées, tout simplement, de vivre ou de respirer. Vous le savez, je l'ai dit, cette 20 états interdisent l'apostasie, dont je répète que c'est une immense victoire des Lumières que d'avoir autorisé chacun à n'utiliser que les Lumières de sa raison, de son entendement, pour décider ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est beau, ce qui l'est moins. Et je vous invite à relire le magnifique texte d'Emmanuel Kant de 1784, Was ist Aufklärung? Qu'est-ce que les Lumières? Ou réponse à cette question, qu'est-ce que les Lumières? Dans lequel Kant précisément demande à chaque homme qui utilise sa raison, eh bien, de se déterminer en fonction de son entendement. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un véritable danger. Et j'ai l'impression que les Lumières n'ont jamais été aussi menacées qu'au moment où je parle. Vous avez vu, il y a un an, des associations se mobilisaient pour essayer d'empêcher le mariage pour tous. Je me suis posé la question au moment de ces manifestations, est-ce que cette loi enlève quelque chose aux hétérosexuels ? Et j'ai eu beau tourner la loi dans tous les sens, je n'ai toujours pas trouvé ce qu'elle enlève aux hétérosexuels. Si une loi n'enlève rien à un groupe, mais ajoute quelque chose à un autre groupe, a priori, et c'est toute la législation du Conseil d'État, c'est une bonne loi. Elle aurait été évidemment une mauvaise loi si elle avait enlevé quelque chose. Pourquoi donc des hommes, des femmes, probablement intelligents, certainement même sensibles par bien des côtés, pourquoi ont-ils développé une propagande aussi haineuse ? J'ai en mémoire le visage de ces jeunes enfants de 5 à 8 ans, qui dans les rues de Paris exprimaient une véritable haine. Pourquoi avoir inculqué tant de haine pour une loi qui ne permet pas une propagande incitant tout le monde à devenir homosexuel ? C'est pas ça du tout. Il n'y avait pas donc de nécessité de se raidir, de se défendre contre une menace extérieure. Ce qui est plus grave, c'est que, étant pour la dernière fois au CAPES, à l'oral du CAPES de documentation il y a un an, j'ai posé à trois candidates, vous savez, il y a 9 candidates pour un candidat, une question simple à l'oral de culture générale. Est-ce que partout, dans tous les temps et dans tous les pays, la famille que nous connaissons, c'est la famille nucléaire, et j'expliquais à chaque fois, c'est-à-dire un père, une mère, un ou plusieurs enfants. Et je disais, réfléchissez bien avant de me répondre. Et les trois fois, j'ai eu la même réponse qui m'a laissé pantois. Oh oui, monsieur. Donc, en 2014, au CAPES de documentation, trois candidates relativement brillantes, puisqu'elles avaient eu des notes suffisantes pour être admissibles à l'oral. Après avoir bien réfléchi, était absolument persuadé que toujours et partout, le seul modèle familial, c'était la famille nucléaire telle que nous la connaissons. Et je pensais à mes lectures quand j'avais 20 ans, Les structures élémentaires de la parenté de Claude Lévi-Strauss, publié en 1947 ou 49, c'est-à-dire il y a plus de 60 ans, à tout ce que les anthropologues nous ont appris comme existence d'une diversité, évidemment, de modèles familiaux. Sans aller si loin, la famille antillaise repose sur la mère. Le géniteur, il est là accessoirement. C'est la famille caraïbe, c'est pas moi qui l'ai inventée. Eh bien, même à un examen, un concours, pardon, de recrutement, du CAPES documentation, ce n'était plus accessible à l'intelligence des jeunes filles qui avaient été, je le répète, admissibles. Donc voilà un peu les questions qui m'ont amené, en effet, à une conclusion un peu pessimiste et à poser toutes les questions que je pose. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, n'hésitez pas à poser.
Voilà, je vous laisse la parole. Enfin, en fait, c'est pas une question. Vous avez bien entendu y répondre. Je vois bien pas dans quel sens. Mais vous terminez sur l'autocensure. Aujourd'hui, l'autocensure, de nouveau présente, puisqu'on voit bien encore que dans une ville comme Clichy-sous-Bois, par exemple, un certain nombre d'artistes, une artiste, retire des œuvres. Vous l'avez là. Voilà, c'est ça. Bon. Et donc. En effet, la conclusion pessimiste, elle ne peut à la fois, un, que nous rendre plus pessimistes encore, mais deux, nous inciter aussi à affûter nos armes, à réfléchir, à revenir à l'esprit des Lumières. Et c'est pour ça aussi que nous avions souhaité que vous interveniez ici et qu'on aura d'autres interventions du même type, parce qu'il nous semble que nous, bibliothécaires, conservateurs, futurs professionnels de la documentation, si nous ne sommes pas là pour mettre à disposition, ouvrir les débats, alors c'est fini. Juste sur la question de l'autocensure.
Oui, tout à fait. L'exemple que vous citez de Clichy, c'est un maire socialiste, Gilles Catoire, qui interdit d'exposition, silence, une œuvre magnifique, les chaussures vides. Elle invite à réfléchir. Est-ce que cette œuvre est blasphématoire? Il faut être absolument stupide pour l'imaginer. Est-ce qu'elle invite à réfléchir? Naturellement. Alors, il faut la montrer. Il faut la montrer pour que naisse l'interrogation. Non pas d'aboutir à l'idée qui serait stupide, que le fait d'enlever ses chaussures soit quelque chose de suranné ou d'obsolète, pas du tout. Alors l'islam peut naturellement avoir ses codes, comme toute religion a ses codes, mais on peut avoir une réflexion au-delà de ce cas d'espèce. Songez aux États-Unis au fait que la législation dite Patriot Act, qui a été votée en 2001, n'a toujours pas été abolie. Au nom de cette législation, un bibliothécaire doit remettre aux agents du FBI la liste des lectures de tout lecteur qui a emprunté quelque chose. Alors, heureusement, il y a des centaines de bibliothécaires aux États-Unis qui ont refusé de répondre à cette injonction. Mais ils peuvent être révoqués, ils peuvent même être emprisonnés. Non seulement ils doivent donner la liste, mais ils n'ont pas le droit de prévenir le lecteur qui est soupçonné. Dans nos pays, on n'a peut-être pas cela, mais est-il si facile aujourd'hui d'organiser une exposition qui montre effectivement une certaine violence? Est-ce que même d'ailleurs, au fond, est-ce que les Monty Python pourraient aujourd'hui voir leur film où on voit le Christ en croix en train de danser sur une musique de rock ou de jazz, je ne sais plus, est-ce qu'on pourrait voir cela? J'imagine qu'il y aurait une levée de bouclier, on dirait c'est du blasphème. Je ne cesse de le dire à mes étudiants. Oui, on a le droit de représenter Mahomet. Pourquoi? Parce que le Coran n'interdit pas la représentation de Mahomet. Mais je n'ignore pas que la jurisprudence de l'islam, effectivement, a amené à partir, semble-t-il, du XIVe siècle, à censurer toute représentation du prophète. Mais il n'y a pas de texte sacré qui l'interdise. Cela étant, je ne suis pas musulman, et c'est pas à moi de dire s'il faut, oui ou non, le représenter. Mais si quelqu'un, par ailleurs, comme on l'a dit très justement, représente un personnage historique dont on n'a pas d'image, il ne peut pas y avoir de caricature. Alors en clair, il y avait dans Le Monde il y a quelques jours une tribune libre d'un professeur d'esthétique qui a sorti cet argument qui me paraît tout à fait recevable. Il ne peut pas y avoir de caricature du Christ, car on n'a pas de portrait du Christ. On n'en a pas de l'époque. Pas plus qu'il ne peut y avoir de caricature de Mahomet, puisqu'on n'a pas de portrait. Bon, alors on peut dire que c'est peut-être jouer sur les mots. Mais en tout cas, vous le voyez, difficulté à admettre l'idée qu'en effet, il puisse y avoir, eh bien, une volonté d'affirmer la liberté. Et, au risque d'être un peu long, j'ajouterai que j'ai été très choqué lorsque Charlie Hebdo a publié, la nouvelle équipe a publié ce numéro d'hommage, hein, publié à des millions d'exemplaires, les médias britanniques et les médias américains, enfin états-uniens on devrait dire, ont refusé de montrer la une de Charlie Hebdo. Et songez à ce média japonais imbécile qui a demandé pardon à Daesh il y a 48 heures d'avoir publié la une de Charlie, alors même que quelques heures plus tard, Daesh, l'État islamique, allait égorger le japonais qui était là-bas. Eh bien, ce média japonais mériterait qu'effectivement les Japonais manifestent dans la rue pour lui demander de faire au moins son autocritique. Il y a là des dérives qui sont considérables, considérables si on n'y prend pas garde. Exact, absolument. C'est le Clichy où Gilles Catoire est maire, absolument, dans les Hauts-de-Seine. D'autres questions ? Oui, madame.
Personne ne parle, j'ai parlé un petit peu. C'est pas vraiment une question, c'est une première information. J'ai lu cet après-midi ce qui m'a fait à peu près le même effet que ce que vous racontez sur Clichy, qu'une fondation que je ne connais pas, qui s'appelle Jumex, qui a apparemment ouvert au Mexique il y a peu, vient d'annuler une exposition sur des artistes actionnistes viennois qui effectivement produisaient un art où il y avait beaucoup de violence. Donc ça m'a quand même un peu troublée. Et je trouve que ce que la situation actuelle nous pose, c'est pas seulement de savoir si le Coran dit qu'on a le droit ou pas de représenter le prophète, c'est de savoir qu'est-ce qu'on s'autorise dans une société laïque où le blasphème n'existe pas. Et je trouve que... Oui, au Mexique, 5000 personnes avaient signé une pétition contre cette exposition. Et forcément, on a un peu des frissons parce qu'on se dit, voilà, nous, on est quelques bien-pensants ou quelques esprits éclairés. Mais qu'est-ce qui se passe en ce moment autour de nous, y compris en France, même si, effectivement, les Français sont capables d'avoir une sorte de rébellion comme ça contre la barbarie. Voilà, donc moi, ça m'inquiète beaucoup, tous ces petits trucs qui font qu'on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela pour protéger machin, pour protéger truc, alors qu'effectivement, depuis... y avait encore de la censure dans les années 70. Mais disons, depuis 30-40 ans, on a quand même une grande liberté, et tout à coup, ça nous tombe dessus, comme si c'était, je ne sais pas, conjuratoire contre la crise.
La réponse que j'ai envie de faire, je l'ai donnée dans une tribune libre du Monde qui a été publiée le 31 décembre. Je considère toute proportion gardée, mutatis mutandis, aurait dit le général de Gaulle, que le fascisme est revenu, qu'il est dans nos cités, il n'est pas simplement à nos portes. Je sais bien qu'aujourd'hui, il s'habille avec une tenue religieuse et non pas politique. Mais si on regarde son ambition, imposer son idéologie, on peut l'appeler sa vision du monde, sa Weltanschauung, on peut l'appeler comme on veut, l'imposer aux autres et interdire toute autre vision du monde. Il a également des volontés expansionnistes. L'État islamique, je ne suis pas sûr que le gouvernement ait eu raison de nous demander de l'appeler Daesh. Parce qu'un État, ce n'est pas forcément un État qui a des frontières. Un État, ça peut être mobile et précisément une volonté de s'élargir. Un expansionnisme, comme dans les années 30, on l'a vu avec les fascismes italiens, allemands, japonais. La volonté également d'imposer des normes et de l'imposer par la force, et y compris la force la plus bestiale, comme on le voit avec ces cérémonies de l'information, car ce sont des cérémonies de l'information qui consistent à égorger en vidéo. Ce sont des cérémonies de l'information, c'est comme ça qu'il faut les traiter, parce que ni vous ni moi nous ne les regardons, mais les jeunes les regardent sur internet, vous le savez bien. Donc ça, c'est ma réponse de citoyen, si vous voulez. Je pense que par rapport à ce fascisme qui revient, nous n'utilisons pas les réponses qui devraient être utilisées. Je veux dire par là que les réponses doivent être de type politique. Il faut lutter pour empêcher, en effet, ce fascisme de prendre le pouvoir. Je l'ai dit dans mon article, il n'est pas admissible que dans certaines cités, on puisse imposer un costume à un homme ou à une femme qui ne veut pas le porter. Bon, il n'est pas admissible qu'on puisse imposer un régime alimentaire à quelqu'un qui n'en veut pas. Il faut, je l'ai écrit, appeler un chat un chat. Un barbare, et un assassin de la liberté, un assassin de la liberté. J'ai pesé mes mots, j'ai signé cet article, j'ai accepté qu'il soit publié, et je pensais d'ailleurs recevoir des lettres d'insultes, je n'ai eu que des messages d'approbation, comme si tout d'un coup beaucoup de gens se rendaient compte qu'en effet il fallait avoir le courage. Comprenez bien, et je l'ai dit dans cet article, on peut trouver toutes les explications individuelles pour expliquer le geste d'un jeune homme ou femme qui va partir pour la Syrie. Naturellement, au niveau sociologique, au niveau psychologique, on peut avoir une chaîne d'explications. Mais le problème, il n'est pas là. Il n'est pas là le problème. Il est par rapport à un danger effectivement de type politique, c'est-à-dire d'une expansion de ce phénomène qui se traduit par la mort des hommes, le massacre. Songez aux yézidis, à ce qui leur est arrivé. Songez même à l'intérieur de l'islam, à tous ceux qui sont chiites. Déjà, c'est la mort. Puisque c'est au nom, non pas du sunnisme, mais d'une vision d'un sunnisme bien particulier que ce modèle prétend se répandre. Donc, c'est la barbarie à l'état pur. Alors, il faut se battre avec des armes politiques. Et il faut effectivement, eh bien, qu'il y ait une prise de conscience et une levée en masse. Moi, je ne vois pas d'autre solution. Il y a un temps pour tout. J'ai envie de dire, peut-être pour une note un peu plus gaie, peut-être parce que je suis historien et pas sociologue de formation, le temps est à l'histoire. Demain, il sera à la sociologie. Lorsque ce danger-là aura été éliminé, on pourra utiliser tout ce qu'on voudra pour comprendre, et y compris se dire que nous avons commis des fautes, c'est évident, que la République n'est pas parfaite, qu'elle n'a pas traité les problèmes qu'elle aurait dû traiter. Souvent, le problème, il n'est pas là. En 1936, qu'est-ce qu'il fallait faire par rapport au coup d'État en Espagne? Est-ce qu'il fallait essayer de comprendre les phalangistes qui partaient, les Français, les Anglais, les Italiens, les Allemands, tous ceux qui partaient se mettre au service de la phalange, au service de ceux qui tentaient d'empêcher l'Espagne de demeurer républicaine? Parce que certains ont essayé de faire la comparaison avec les brigades internationales. Ça ne marche pas. La comparaison, c'est avec ceux qui effectivement sont venus aider le général Franco pour empêcher la République espagnole de demeurer républicaine. L'heure était à l'aide à l'Espagne. Comme vous le savez, la commission internationale réunie à Londres a dit surtout ne donnons pas de prétexte à Hitler et à Mussolini, et donc non-engagement, neutralité. On sait bien que la neutralité n'a jamais été respectée. Voilà un peu, moi, les réponses que je peux vous faire aujourd'hui. Mais j'ai conscience de prêcher en grande partie dans le désert. D'autres questions ou réflexions ? Il nous reste encore un peu de temps, n'hésitez pas. Oui ? Oui. Et peut-être pour l'enregistrement. Hein.
En plus, vous êtes enregistré et filmé, et vous, après, on vous demandera vos empreintes.
Très bien. Moi, ma question est beaucoup plus terre à terre, concerne l'abbé Bethléem, en fait. Donc, j'ai commencé à lire votre livre, et de temps en temps, il y a des extraits de la revue des lectures. Et. Est-ce que, enfin, je veux dire, j'ai trouvé que le ton de ces extraits était ça devait être agréable à lire quelque part. Donc, est-ce que vous pensez que l'abbé Bethléem était en fait un homme de goût en lui-même, même si effectivement il avait après des convictions qui l'amenaient à avoir telle ou telle position, mais il semblerait quand même qu'il ait eu un bon goût littéraire quelque part.
Oui, vous avez complètement raison. Et d'une certaine manière, j'essaie de bien montrer. Il y a deux aspects dans la BPM. Il y a le censeur, il y a le moraliste, l'inquisiteur, mais il y a en effet l'amoureux authentique de la littérature. C'est un homme qui aimait lire, c'est un homme qui aimait aller au théâtre, qui aimait la musique, plutôt la musique sacrée, mais pas uniquement. C'est un homme qui avait une véritable culture. Sa revue, elle est extrêmement bien faite. Elle est tellement bien faite que chaque livre est lu par deux personnes. Et de plus en plus, quand on se rapproche de la guerre de 40, par des écrivains catholiques. Et il faut que les deux soient en accord pour qu'un compte-rendu critique, c'est-à-dire négatif, passe. S'il y en a un qui est plutôt positif, alors la revue ne s'attaque pas à la pièce de théâtre ou au roman ou à l'œuvre qui en fait l'objet. Donc en effet, c'est ce qui explique le succès de cette revue. Elle avait 15 000 abonnés. Songez que la NRF en a 17 500. C'est-à-dire qu'elle fait jeu égal avec la NRF. Or, c'est ça aussi, je le dis dans mon livre, dans toutes les histoires littéraires de la France, il n'y en a aucune qui cite la revue des lectures. Et dans l'histoire des intellectuels, jamais on ne cite l'abbé Bethléem, parce qu'on le voyait probablement, effectivement, comme un père fouettard. Mais c'est authentiquement un intellectuel. Et il est reconnu comme intellectuel. S'il est au congrès du livre de 1917, c'est en tant qu'intellectuel. S'il participe à toutes les semaines des écrivains catholiques entre 1920 et 1930, c'est parce qu'il est considéré comme un intellectuel catholique, bien sûr, mais un intellectuel. Si Mauriac prend le temps en 1938 d'engager une politique extrêmement dure contre l'abbé Bethléem, c'est parce qu'il le reconnaît comme intellectuel. Si Paul Claudel le défend en disant « c'est Bethléem qui a raison », c'est parce qu'il est considéré comme un intellectuel. Oui, c'est un homme de goût, bien sûr, je l'ai dit. Il y a des aspects tout à fait étonnants. Vous vous rendez compte que pour un prêtre catholique, dire que les deux premiers romans de Jules Vallès, L'enfant et le bachelier, il faut les faire lire par les enfants, c'est, d'une certaine manière, faire preuve de courage. L'homme n'est ni noir ni blanc. François Mitterrand aurait dit, la réalité, elle est beaucoup plus grise. Ben oui, c'est quelque chose comme ça. Il est pétri de contradictions. Il aime Victor Hugo, il aime Lamartine. Il aime toute une série d'œuvres, mais c'est un homme de devoir. Jamais il ne dira « l'index librorum prohibitorum se trompe ». Ça, il ne le fera jamais. Et il le disait d'ailleurs jusqu'à sa mort, « si j'avais conscience de ne plus être en accord, de ne plus être soutenu par la hiérarchie, j'arrêterais d'écrire ». Donc c'est vraiment, de ce point de vue-là, un prêtre tout à fait obéissant aux règles de son Église. Mais en même temps, il essaie de faire en sorte de donner de bons livres à lire. Il est un peu comme, de ce point de vue-là, comme Jules Hetzel. Il déteste la tisane littéraire. Il ne veut pas que les enfants ou la jeunesse lisent n'importe quoi. Après tout, Bécassine et Tintin, du point de vue esthétique, il n'y a aucun problème. Ça vaut les pieds nickelés. Simplement, la morale n'est pas la même, bien sûr. Donc, il ne propose pas du tout des livres d'édification comme on l'avait fait au XIXe siècle. Non, il veut qu'effectivement il y ait de bons romans, comme il voudra qu'il y ait de bons films. Et n'oublions pas que c'est probablement, il y a une thèse qui vient d'être publiée par les presses universitaires de Rennes sur les catholiques et le cinéma, une excellente thèse, elle vient tout juste de m'arriver, je l'ai tout juste lue. Mais si les catholiques ont été au fond les premiers à créer une cote du cinéma assez pertinente dans les années 50 et 60, c'est parce qu'ils ont pris le cinéma au sérieux dès les années 20. Et donc, ils ont développé effectivement une critique catholique du cinéma. Oui, bien sûr, Bethléem est un homme de goût, c'est un homme intelligent, mais il a évidemment ses côtés extrêmement inquiétants, terriblement inquiétants. C'est-à-dire qu'au lieu de considérer qu'au fond, la morale qu'il propose, elle peut s'imposer aux catholiques, il propose de sortir de la catholicité et de l'imposer aux laïcs, de l'imposer à tout le monde. Et en ce sens, il me semble qu'il a réussi, en grande partie. La loi de 1949, je ne l'ai pas dit, elle ne peut pas se comprendre sans l'étrange conjonction à la libération de trois familles spirituelles que tout opposait 20 ans auparavant. Les communistes ont participé à la rédaction de cette loi. Ils ne l'ont pas votée en 1949 parce que, avec le début de la guerre froide en mai 1947, ils votent systématiquement contre. Mais, quand vous reprenez tous les travaux de l'Assemblée nationale, de 1945 à 1947, accord total. Donc c'est pourquoi je dis que cette loi, elle a été votée par les trois grands partis politiques, Parti Socialiste, MRP et Parti Communiste. Je le répète, les députés ont voté contre, mais c'est comme s'ils avaient voté oui, puisqu'ils l'ont préparée intégralement. Et à l'époque, il n'y a pas de députés gaullistes. Donc on a les trois grandes familles. Comment expliquer cette conjonction ? Où est passé le féminisme de la gauche ? Où est passée la tentation anarchiste ? Où sont passées toutes ces prises de position pour le naturisme, pour toute une série de phénomènes qu'on a connus dans les années 1880, on va dire, à 1914 ? Qu'est-ce que c'est devenu ? Eh bien, dans une société qui a changé, effectivement, il y a eu une conjonction. Et d'ailleurs, quand vous avez apporté le colloque qu'on avait organisé à Angoulême en 1999 lors du festival de la BD pour le cinquantenaire de la loi de 1949, qu'est-ce qu'on avait constaté effectivement en faisant venir des fondateurs, enfin des membres de la commission de contrôle et de surveillance, Raoul Dubois pour les laïcs et René Finkelstein pour les catholiques? On avait constaté qu'ils étaient les meilleurs amis du monde. L'un et l'autre étaient jeunes résistants pendant la guerre. Ils avaient de l'estime l'un pour l'autre. Il y en a un qui croyait au ciel, l'autre qui n'y croyait pas. Ils s'étaient battus pour les mêmes idéaux. Et puis au fond, ils nous l'ont dit, dans la commission, ils étaient d'accord 9 fois sur 10 pour protéger la jeunesse à la fois du laxisme états-unien, les cow-boys, les histoires de gangsters, l'immoralité, et les protéger contre d'autres formes d'immoralité. Ils l'ont reconnu avec beaucoup d'honnêteté. Oui, ils étaient en très grand accord. Et d'ailleurs, Finkelstein nous dit dans le débat, parce qu'on a reproduit une partie de la table ronde, il dit évidemment, en 1999, la morale, on ne sait plus trop ce que c'est. Mais croyez-moi, en 1949, on savait exactement ce que c'était. Et donc, au nom de ce consensus qui s'était forgé sur un certain nombre de principes, eh bien, il y avait eu le vote de cette loi. Pourquoi avions-nous mis comme titre « On tue à chaque page » ? C'est un film produit par les organisations laïques en 1950, réalisé par trois jeunes réalisateurs qui sortent de l'IDEC, la grande école du cinéma, et qui s'intitule « On tue à chaque page ». Vos enfants sont menacés. S'ils lisent des histoires de gangsters, ils vont devenir criminels. Et je vais terminer par là, parce qu'au fond, dans toutes ces prises de position, qu'est-ce qui est à la base de cette idée consensuelle selon laquelle le fait de voir des images de crime pousse au crime ? Mais dites donc, ils n'ont pas lu Aristote, ils n'ont pas lu Sophocle, et la catharsis, et le nombre de crimes qu'on a empêchés grâce à la lecture de romans policiers, grâce à la lecture effectivement cathartique. Ça, ils n'en parlent jamais. Alors je dis avec le sourire qu'ils ont une conception bovariste. Mais oui, c'est exactement Flaubert devant Madame Bovary. Elle l'a lu au couvent, vous savez, apporté par les lingères, hein, des romans à l'eau de rose, et elle confond le réel et la réalité. Richard Hogarth nous a appris, hein, dans son livre magistral de 1957, que non, l'ouvrière anglaise qui lit un roman Harlequin, elle ne confond pas le réel avec la réalité. Pas du tout. Même chose quand elle voit un film. Elle n'est pas aussi bête que les intellectuels qui ont théorisé sur ses lectures. Elle est tout à fait capable de faire l'un et l'autre. Et si on sait aujourd'hui qu'aux États-Unis, les lecteurs et lectrices d'Harlequin sont aux trois quarts, possèdent aux trois quarts au moins l'équivalent du baccalauréat, on a tout d'un coup une autre idée de ces prétendues lectrices absolument incultes, hein, que l'on imaginait lire Harlequin. En France, Harlequin, c'est un homme et trois femmes qui lisent. Et encore, comme c'est le groupe Hachette qui est propriétaire à 50%, on n'a pas les données statistiques. Donc on ne sait pas trop, on ne peut pas aller tellement plus loin sur ce lectorat. C'est un lectorat qu'on a l'habitude de fustiger. C'est un lectorat que d'aucuns disaient complètement aliéné. Mais non, ce lectorat n'est pas aliéné. Il éprouve un plaisir que les psychanalystes ou les psychologues appelleraient, c'est le plaisir du ressassement. On connaît parfaitement les codes, on les maîtrise, on se meut dans cet univers avec agilité, exactement comme nous quand on est dans Balzac ou dans Zola. Lorsqu'Anne-Marie Thiès avait fait sa grande enquête qui est devenue le roman du quotidien publié en 1984, elle avait interrogé des femmes qui lisaient des romans feuilletons avant la Première Guerre mondiale. Quand elle leur demandait « Est-ce que vous avez lu Balzac ? Est-ce que vous avez lu Zola ?»« Je ne connais pas. » « Mais alors, vous n'avez pas lu tel roman qui parle de l'alcoolisme chez les ouvriers ?»« Si, bien sûr. » Tout simplement, ces femmes, comme on ne les invitait jamais à des repas du Rotary, comme elles ne faisaient jamais état de leur lecture, pourquoi voulez-vous qu'elles aient mémorisé le nom de Balzac ou de Zola ? Elles n'en avaient pas besoin, parce que dans leur milieu, c'était pas valorisant de dire qu'on avait lu Balzac et Zola. Alors Anne-Marie Thiès montrait qu'en réalité, il y avait bien eu lecture de la plupart des grands classiques qui étaient passés dans le roman feuilleton, mais on avait retenu pour l'essentiel l'intrigue, les personnages, Cosette, Jean Valjean, mais à la limite peut-être pas le titre Les Misérables, quoique Les Misérables si, parce que le titre est accrocheur, mais pour beaucoup d'autres les titres avaient disparu. Mais oui, dans certains milieux on met en avant, hein, ses lectures et sa culture, mais dans d'autres milieux, enfin, si dans les années, je ne sais pas, 1930, vous alliez au bal à Romorantin, c'était pas la peine de dire que vous aviez lu Balzac, parce que vous n'aviez aucune chance de rencontrer une cavalière. Donc voilà. Y a-t-il une dernière question ? Oui, Étienne Nadéo.
Moi, je suis presque allé au bal à Romorantin.
Oui, moi, je voulais vous parler de l'autocensure. Vous avez dit que la BBTM avait pour objectif de provoquer une autocensure auprès des éditeurs. Est-ce que vous pensez est-ce que vous connaissez des exemples catholiques comme ça, de gens qui ont tenté, de religieux qui ont tenté d'inspirer cette autocensure à des éditeurs ou à des auteurs avant la BBTM au cours du 19e siècle? Et par ailleurs, est-ce que vous ne croyez pas que cette sorte de lobbying, finalement, d'essayer d'influencer, ça peut être déjà un renoncement par rapport aux catholiques des années 1850 ou 1870 qui espèrent encore triompher politiquement et qui espèrent encore éviter justement un jour l'état laïque en France?
Les formes d'autocensure, elles existent pendant tout le 19e siècle parce qu'il y a d'abord une conjonction entre les intérêts de l'État et les intérêts de l'Église catholique. Il y a une alliance objective jusqu'au Second Empire, au moins jusqu'au milieu du Second Empire. De toute façon, la loi interdit, par exemple, la caricature ou la plupart des caricatures qui s'en prendraient. N'oubliez pas que sous la Restauration, la peine de mort est restaurée avec Charles X contre quiconque, hein, comme le chevalier de la barre, s'en prendrait à un cortège religieux. Donc, qu'il y ait une autocensure est une évidence. Par ailleurs, la censure sur les spectacles existe en France jusqu'en 1905. Donc, de toute façon, vous ne pouvez pas mettre en scène une pièce de théâtre, un opéra, une opérette, bientôt un spectacle de café-concert ou de music-hall, sans avoir donné le texte à la censure et avoir obtenu l'autorisation. Donc il est évident que l'autocensure s'est répandue en profondeur dans la société française. Moi, j'ai donné il y a longtemps dans Michel et Kalman-Lévy ou La naissance de l'édition moderne, il y a 30 ans, en 1984, l'exemple d'Ernest Feydeau. Vous connaissez surtout, vous, Georges Feydeau, le fils d'Ernest. Mais Ernest, il s'était fait connaître en 1858 et 1860 par deux romans légers qui avaient eu un grand succès, Fanny et Daniel. Michel Lévy, qui était le Gallimard de l'époque, immédiatement lui avait fait signer un contrat en or massif pour obtenir l'exclusivité de ses romans. Mais, dans le cahier des charges, il y avait l'autorisation pour l'éditeur de censurer, d'enlever des phrases, des paragraphes, si l'auteur, eh bien, risquait de provoquer un scandale qui entraînerait l'intervention de la justice. Donc l'autocensure, elle est partout présente dans la société française au XIXe siècle. J'ai parlé ailleurs de la formation, je vais loin, d'un habitus de soumission de l'édition française, de soumission au pouvoir politique au XIXe et au début du XXe siècle. Parce que il faudrait remonter à la censure royale, le privilège avant 1789, et puis ensuite la loi de 1810 qui impose le brevet, qui impose le certificat de bonne vie et mœurs. On cite toujours quelques éditeurs courageux. On va citer Pierre Larousse, on va citer Panière, on va citer Maurice Lachâtre, ils ne sont pas si nombreux. On va citer quelques éditeurs qui effectivement ont laissé passer telle et telle œuvre. Mais avant 1881, un imprimeur doit aller remplir le registre en affirmant qu'il va mettre sous presse tel livre de tel auteur pour le compte de tel éditeur. Songez, ce sera mon dernier exemple. Ernest Renan publie La vie de Jésus en 1863. Il y a un vrai débat. Le pouvoir politique se dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a l'Église qui fait pression. Interdisez-le, interdisez-le. 6 mois avant, Renan a eu le culot d'inaugurer son cours au Collège de France, seul et unique cours sous le Second Empire, par cette phrase extraordinaire en parlant de Jésus-Christ. Cet homme si grand que certains, frappés par son caractère extraordinaire, bien qu'ici tout doivent être jugés du point de vue de la science positive, l'appelle Dieu. Immédiatement, tohu-bohu, scandale, vous vous rendez compte? Il est si grand que certains l'appellent Dieu. C'est un numéro de jésuite extraordinaire de la part de Renan, avec ses incises et tout ça. C'est un vrai bonheur, je trouve, à expliquer ce texte. Mais le cours est suspendu. Résultat, le pouvoir politique n'interdit pas la publication de La vie de Jésus. Mais c'est l'édition à 7,50 francs, plus de, mettons, 7,50 francs, c'est largement 40 à 45 euros d'aujourd'hui, donc un livre très cher, en librairie. Un an plus tard, Renan fait une édition abrégée, sans les notes, qu'il intitule Jésus, à 1,25 francs. On est là à 6 euros. Interdiction dans le service du colportage, on ne pourra pas l'acheter dans les kiosques de gare, on ne pourra pas l'acheter en dehors des librairies. 1869, Renan en tire une vie de Jésus illustrée à 10 centimes, même refus de la commission du colportage. La voilà, la censure et l'autocensure, c'est-à-dire, par rapport à de tels exemples, que font les écrivains? Eh bien, évidemment, ils s'autocensurent. Songez qu'en 1857, on cite toujours Flaubert qui est sermonné par le procureur Pinard, et puis Baudelaire qui est condamné pour Les fleurs du mal. Mais on oublie Eugène Sue, il vient de mourir en 1857. Les mystères du peuple, condamnés à être détruits. Comment voulez-vous que les écrivains ne s'auto-censurent pas, que les historiens ne s'auto-censurent pas, que les dramaturges ne s'auto-censurent pas? Elle est omniprésente, l'autocensure, dans ces circonstances. Donc voilà ma réponse. Je vais vous quitter, je dois reprendre un train à 20h. Merci de m'avoir écouté, et puis bonne lecture et bonnes études dans cette belle maison.
Merci à vous tous d'avoir effectivement été présents, et merci à vous en tout cas d'être venus, mais c'est un plaisir à chaque fois, hein, je pense.